Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Duval, Steve, Cynthia et Fatih. La team afro et leurs invités vous ouvrent les portes du week-end sur Mon Paris FM.
Mon Afro Paris, c'est maintenant, maintenant.
Bienvenue dans Mon Afro Paris, l'émission où les cultures afro-descendantes se racontent, s'affirment et rayonnent depuis le cœur de Paname. Au programme, débat, découverte et émotion et inspiration avec une équipe de choc et des invités qui font bouger les lignes. C'est d'abord Steve avec son incontournable coup de cœur. Aujourd'hui, il nous parle d'un artiste qui l'a profondément marqué comme d'habitude, hein, qui a marqué aussi son temps. C'est un concepteur né et intemporel. Salut Steve.
Bonsoir Duval, bonsoir à nos invités, bonsoir à nos auditeurs.
Comment j'ai ça pas dévoilé tous les secrets, j'espère.
Bah non. Bah
ça va la forme?
Impeccable.
Très heureux de te retrouver, très heureux de retrouver tout le monde, comme tous les vendredis soirs, on est encore là. Et Cynthia et ses découvertes sera avec nous tout à l'heure. Chaque semaine, vous le savez, hein, elle met la lumière sur des initiatives culturelles afro qui méritent d'être connues. Et puis bien sûr, Fatih. Fatih nous entraîne, notre petit rayon de soleil qui est avec nous. Salut Fatih, ça va?
Bonsoir à tous, ça va Duval?
La forme?
Ça va.
Bon. Très heureux, comme d'habitude, de te retrouver.
Également.
Même si c'est pas ce que je t'ai dit il y a quelques semaines. Alors, on a des invités, je le dis, hein, qui font bouger les lignes. Evelyne Gomi, c'est une fondatrice, elle est fondatrice d'Easy Collé, une école hybride qui met l'enfant au centre de son apprentissage et de son avenir. On en parlera avec elle tout à l'heure, vous en faites pas, vous allez tout savoir. Rogia Toutouré, avocate et romancière, elle fait vivre les mémoires invisibles dans son roman L'Exode des Capoquiers. Bonsoir Rogiatou.
Bonsoir.
Ça va?
Oui, très bien.
J'ai
merci.
Tout bien prononcé, j'espère.
Parfaitement.
On me reproche souvent de tordre les choses et de dire comme je veux.
Tout était parfait.
Comment donner voix au silence de l'histoire sans les figer dans la douleur? Dites-moi.
Alors, l'histoire, c'est pas forcément de la douleur. Hein. Donc, l'histoire, c'est notre vie.
Oui.
C'est la vie qu'on vit au quotidien. Dans la vie qu'on vit, il n'y a pas que du négatif, il y a du positif, il y a du négatif. Et dans l'histoire, c'est pareil, il y a du positif, il y a du négatif. Donc quand on veut retranscrire l'histoire, on la retranscrit comme la vie qu'on vit.
Comme elle est.
Et voilà, et on peut le faire sans douleur.
Tout à fait.
On peut le faire, enfin il y a forcément de la douleur, puisque dans la vie il y a de la douleur.
Évidemment.
Mais ça n'est pas que douleur en tout cas.
Il y a aussi du bonheur, du plaisir, du sourire, de la joie.
Exactement.
Comme ce soir dans ces émissions, on en parle tout à l'heure, t'en fais pas. Et enfin, l'invité musique de ce soir, Tena, chanteuse R&B et à l'univers métissé et puissant entre hip-hop, résilience et esthétique. Bonsoir Tena.
Bonsoir, enchantée.
J'ai bien prononcé, c'est Tena.
Comme tu veux, mais bon, je pense que la première était la bonne.
En tout cas, quand je dis Tena, tu te reconnais, c'est de toi qu'on parle.
Oui,
tout
exact.
À fait. Comment restes-tu fidèle à ton identité musicale tout en défiant les formats imposés par l'industrie aujourd'hui?
C'est toute une question, c'est une question complexe, ce qui pourrait prendre des heures d'ailleurs. Mais je pense que c'est en restant fidèle à son évolution en tant que personne et ce qu'on... On imagine pour soi le chemin qu'on veut et le type de vie qu'on veut pour soi. C'est quand on reste connecté à ça, je pense qu'on fait en sorte d'échapper à l'oppression, enfin, disons, de se faire imposer.
Cette oligarchie que les industries nous mettent dessus, en tout cas, il faut rester soi-même. C'est ça qu'il
faut
retenir.
Oui, il faut essayer. Après, c'est une formule intéressante, mais oui, du mieux qu'on peut, oui, je pense.
Merci d'être avec nous, on parlera de ta carrière, de ton parcours, de ta musique, de tout ce que tu veux tout à l'heure dans cette émission. Préparez-vous, ça va vibrer très fort entre pensées qui élèvent, son qui bouscule et regard qui éclaire mon Afro Paris. C'est la parole qui libère et inspire. Et voici une parole libérée depuis son passage dans cette émission. C'est Benny Dia qu'on retrouve tout de suite et on repart. À tout de suite les amis.
Mon Afro Paris, c'est tous les vendredis de 19h à 20h30 sur Mon Paris FM.
Music. c'est midi, soit tu fais ta jantou. Ma gueule t'a tort, tu te défends.
Je suis bloqueur,
ma baby tout dépend.
Tu es bloqueur,
qui t'a dit je suis bloqueur, bloqueur. Tu m'as pris pour un mon corps, bloqueur, bloqueur.
Tu m'as blagué,
c'est blagué, tu es qui t'en jaille. Coupé, décalé, qui t'en jaille. Celui qui te voit c'est Adonai. Le dernier mot c'est Adonai. Qui t'a dit je suis bloqueur. Chocololo, baby chocololo,
la baby chocololo.
Quand je te parle en vrai, tu te fous de moi. Qui t'a dit je suis bloqueur, bloqueur? Tu m'as pris pour un mongol, bloqueur, bloqueur. Tu m'as blagué, tu fais des choses impardonnables. Avec moi, je suis adorable. Et demain, quand tu reviendras, ça sera trop tard.
Démarrez votre week-end avec la Team Afro dans Mon Afro Paris.
Chaque semaine, il nous fait découvrir une artiste, une œuvre ou une vibe qui l'a bouleversée, inspirée, fait vibrer, qu'il s'agisse d'un son, d'un tableau, d'une scène, de rue ou d'un son venu d'ailleurs, ses oreilles affûtées captent ce que beaucoup n'entendent pas du tout. Une nouvelle claque aujourd'hui avec le coup de cœur de Steve, chers auditeurs. Ah.
Steve vous emmène dans son univers musical. Laissez-vous entraîner dans sa playlist. Le coup de cœur de Steve.
Aujourd'hui, Duval, cher Duval, tu m'as très bien présenté, merci beaucoup pour ça. On tend l'oreille vers une voix puissante. Un souffle de feu, un saxophone en révolte. Bienvenue dans l'univers vibrant de Monsieur Femi Kuti, l'héritier incandescent de l'Afrobeat. Né à Londres, mais élevé dans le tumulte de Lagos, Femi Kuti n'est pas seulement le fils de Fela, il est le prolongement du combat, le souffle qui perpétue la rébellion. Dès ses débuts dans les années 80, il marche dans les pas du maître, mais avec sa propre cadence. Pas facile d'être un fils d'eux. Son père est une légende, la légende de l'afro-funk, de l'afro-beat. Là où Fela détonnait, Femi explose. Écoutez bien ces morceaux, on y entend la douleur du peuple nigérian. La dénonciation des injustices, de la corruption, de la violence politique. Mais surtout, on y ressent l'urgence de vivre, de danser, de résister par le rythme. Avec son groupe The Positive Force, Femi a redonné une nouvelle jeunesse à l'afrobeat. Il a mélangé les racines avec des sonorités modernes, jazz, funk, électro, sans jamais trahir l'essence du genre. Une musique de trance, de conscience et de feu. Sur scène, c'est un volcan. Sax en main, torse nu, corps vibrant, transpirant. Femi Kuti, c'est l'âme de l'Afrique qui danse, qui crie et qui se bat. Infatigable, engagé, flamboyant. Femi ne se contente pas d'être un artiste, il est un éveil. Tout de suite, chers auditeurs, un extrait de son dernier album, le 11e, sorti le 25 avril 2025, intitulé, excusez-moi pour mon accent anglais, hein, je suis désolé, mais je vais le tenter, Journey Through Life. Ça va, c'est correct ? C'était bien ? Ouais, merci. Donc c'est un album qu'il a produit entièrement seul. Et le titre que va nous diffuser notre cher Léo là-bas s'intitule « Think My People Think ».
Alors,
enjoy les amis.
Mon Afro Paris sur mon Paris FM.
Franchement, c'est un poids lourd ça. Tu t'es attaqué à quelque chose de très 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 fort, très très puissant. Écouter parler de Femi Kuti, c'est plonger dans l'héritage brûlant d'une lignée d'artistes et de militants. Enfin, il aurait pu se contenter de marcher dans les pas de son père, mais non. Il a préféré tracer sa propre voie avec la même intensité, mais un message à lui. Un son à lui, propre. Il a réussi à prolonger le travail que le père il a fait. Ce qui frappe chez Femi, c'est cette capacité à faire du saxophone une arme de combat et de la scène un espace de revendication. Il chante pas seulement pour faire danser, il chante pour éveiller, pour dénoncer les corruptions, l'injustice, les abus. Sa musique est éclectique et son engagement est viscéral.
C'est tellement bien dit, Duval. Que rajouter derrière ça, hein? Franchement, non, t'as tout dit.
Ah, moi, je suis trop content que tu parles.
Je suis vraiment d'accord avec toi. Après, moi, je pense que vraiment, mais après, c'est là qu'il y a un petit débat entre nous, toi et moi, Duval, mais je respecte ce que tu dis. Mais je trouve que vraiment, il est... Enfin, si on ferme les yeux, on ne sait pas que c'est lui, on pense que c'est son père au départ, quoi. Après, c'est sûr qu'il a sa griffe à lui. Et
évidemment,
tout, et
je suis... moi, je l'ai souvent dit, chaque fois que je parle de lui, je le pense, hein, lui, c'est la preuve qu'on peut hériter d'un nom sans jamais perdre sa voix. Il ne fait pas que prolonger l'afrobeat, il le réinvente avec sa rage, sa foi, son feu, etc. Il a apporté quelque chose de nouveau à cet afrobeat-là, et on l'a ressenti dans le monde. Tena qui fait de la musique... Je sais que toi, ta musique, je l'ai écoutée, hein. Elle est faite de beaucoup d'influences, elle est très métissée. C'est sûr qu'écouter Femi Kuti, ça te parle.
Oui, c'est ce que tu dis. J'ai l'impression que lui, il trouve sa voix, mais dans une voix déjà existante. C'est comme une arborescence, donc une base extrêmement forte qui crée...
Ténin, tu fais le lien entre ce qu'on vient de dire. Effectivement, c'est exactement ça, je suis d'accord avec...
Exactement, avec il arrive à prolonger la chose et il le fait, c'était tellement beau. Merci beaucoup, mon Steve.
Mais il faudrait écouter plus pour juger.
Avec plaisir. Bien sûr, il faut écouter l'album. Alors, il est sorti là, il n'y a pas longtemps. Donc, écoutez-le parce que vraiment, tous les morceaux sont bons. Donc, faites-vous plaisir avec cet album-là.
Merci beaucoup, Steve, hein, pour ce coup de cœur. Ça me touche et ça me plaît beaucoup que tu aies pensé à faire un coup de cœur sur Femi Kuti. Et c'est très intéressant. Dans quelques instants, c'est l'heure de retrouver notre Cynthia pour sa découverte de ce jour. Let's go.
Modèle, impactant, inspirant et innovant, c'est dans Découverte.
Alors, madame.
Bonsoir. Alors, aujourd'hui, je vous fais découvrir Akinola Davis. C'est un auteur, scénariste et réalisateur. Il passe le début de son enfance au Nigeria et très vite, il jongle entre sa terre natale, New York et Londres. Très attiré par l'art, il crée un univers lié à la musique, aux arts cinématographiques et au stylisme. Il étudie les médias à Brighton et se lance tout d'abord dans une carrière de DJ, puis d'animateur radio, et devient ensuite le cofondateur du club PDA Club à London. Il se lance dans la vidéo et multiplie les réalisations de documentaires, de clips vidéo, des campagnes publicitaires pour de grandes marques, de réalisations de films, notamment Lizard, qui a été primé au Sundance. J'espère que j'ai bien dit.
T'as réussi.
Et Welcome to Nollywood en co-réalisation. Il sort également For Side X US. One day go be one day. United is strange. Il faut que j'arrête de choisir des bilingues. Ouais. Là, ouais. J'en ai corrigé quelque
T'inquiète
chose.
T'inquiète pas, on va t'inscrire en cours d'anglais oral dans pas longtemps.
Je te jure. United is strange et la série Black to Life. Mais ce soir, si je vous parle de Monsieur Davis, c'est parce que son film My Father's Shadow, sorti en 2025, fait entrer le Nigeria, pardon, au Festival de Cannes 2025. Et nous en sommes très fiers. C'est le premier film nigérien qui rentre au Festival de Cannes.
Ça fait plaisir.
Wow, ça fait plaisir.
Ça fait vraiment plaisir. Parce que moi, j'ai l'habitude de regarder les films de Nollywood. Mm-hmm. Il y a de très bonnes intrigues. Je ne sais pas si pour regarder, c'est malheureusement l'image qui joue contre eux.
Non, en même temps, il faut dire que le Nigeria, c'est l'un des pays africains qui est très, très développé en termes de cinéma. Il y a un ministère, il y a un budget. Nollywood, ce n'est pas quelque chose qui est né comme ça. Il y a un gros investissement derrière, même si tu parles de qualité d'image et tout. Mais franchement, en termes de scénario, en termes de matos pour produire, ils sont plus équipés que la plupart des pays africains en ce moment. En tout cas, de ce côté-là. J'irai pas en Afrique du Sud. Étroitement lié avec l'Afrique du Sud, ils font des séries qui sont pas mal aussi hein, quand ils font des choses ensemble. Hein. C'est super bien.
Ah, totalement d'accord.
Et les premières séries africaines de ce côté-là qui sont parties sur Netflix sont venues du Nigeria et les premiers films.
Ben, je vous invite à le suivre parce que c'est un très grand artiste.
Et c'est une claque visuelle. Hein. Quand il produit quelque chose, c'est quelque chose d'intéressant. C'est un jeune cinéaste. Il a une capacité rare de transformer chaque image en déclaration. Mm-hmm. Il est très poète.
Bon, en fait, il a un rapport avec l'amour qui est très intense.
Ça s'entend, ça se voit. Il faut le regarder pour le savoir.
D'accord. Super intéressant. Très belle découverte.
J'ai vu que tu étais en train de réfléchir. Tu fais comme moi. Moi, quand on me raconte une histoire, je me fais des images mentales. J'essaie de voir la personne. Je ne sais pas pour vous, Téna, est-ce que vous regardez le cinéma africain? Vous êtes intéressé par des séries et tout, toi?
J'en ai vu, mais j'aimerais en regarder plus.
Regarde tout, du livre au film.
Je suis encore un peu... je m'y connais pas trop encore au cinéma africain, mais ça m'arrive de temps en temps de regarder des séries, mais il faut que je creuse, en tout cas.
De quelle origine, par exemple?
Du Sénégal, mon pays d'origine.
Elles sont pas mal aussi.
Ah, ils sont pas très, ils sont pas mal du tout. Et j'ai envie de dire, en fait, vous qui êtes dans l'écriture, ce qui serait bien aussi pour vous, c'est le prolongement, parce que la plupart des grands films, des grandes histoires, des séries en Europe, aux États-Unis, sont partis de livres, des écritures qui ont été adaptées au cinéma. Donc peut-être que ce serait bien de retrouver vos œuvres adaptées au cinéma.
Oui, tout à fait. Après, moi, je milite pour la force du livre à l'heure actuelle, donc...
Le papier, rien que le papier.
Non, c'est pas ça, c'est que les gens ont tendance à de plus en plus délaisser la lecture, parce que on a des médias qui sont beaucoup plus faciles d'accès, on a nos réseaux sociaux... on a YouTube, on a les films, on a le cinéma, etc. Et en fait, c'est des choses qui demandent, je pense, un peu moins de concentration que la lecture. Et j'ai l'impression que la lecture se perd. Donc, je trouve que c'est très, très important qu'on y revienne, qu'on revienne à la base, la lecture.
Très bien dit. Vous l'écoutez, chers auditeurs, vous demandez, waouh, quelle est cette femme qui parle si bien, qui parle si bien du livre, de la lecture et tout. Ben, on vous en parle maintenant avec Fatih.
Alors, laissez-la moi. Non, j'ai... Alors, Rougiatou Touré est une avocate française spécialisée en droit des affaires qui dispose à présent près de 10 ans de pratique dans le domaine juridique. D'ailleurs, félicitations.
Merci beaucoup.
Très portée vers ses racines sénégalaises que ses parents lui ont transmises, notre très chère Rougiatou deviendra très vite plus qu'une simple avocate et montrera rapidement son engagement pour le continent africain. En 2022, tu nous fondes Mandé Mori, un cabinet d'avocats dédié aux droits des affaires en Afrique. On pourra alors véritablement t'inscrire dans ce courant-là du panafricanisme. L'année d'après, c'est au tour du domaine de l'écriture de profiter de tes talents, puisque tu créeras ta propre maison d'édition. Félicitations aussi.
Merci beaucoup.
Toujours dans cet élan de panafricanisme, notre très chère érudite publiera l'Exode des Capoquiers, un roman qui explore le parcours de la première génération d'immigrés ouest-africains arrivés en France. C'est ainsi que t'incarneras cette figure engagée qui a su allier expertise juridique, entrepreneuriat et culture, toujours motivée par cette volonté constante d'affirmer et de contribuer au développement de l'Afrique. Alors, Rougiatou, j'ai plein de questions à te poser. Plein de questions. Mais tout d'abord, comment te vient l'idée d'écrire sur les immigrés? Parce que finalement, ce n'est pas la voie que tu empruntes au départ. Donc comment te vient l'idée d'écrire?
Alors, c'est pas la voie que j'emprunte au départ, mais c'est un projet d'écrire. En tout cas, c'est un projet que j'ai depuis le plus jeune âge, en fait, puisque j'ai toujours été passionnée de littérature et de livres. Donc, j'ai énormément lu étant jeune. Et le premier métier que j'ai décrété vouloir faire, c'était écrivaine, en fait. C'est juste que, bon, il faut être pragmatique. Donc, j'ai fait des études. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu ce petit projet dans ma tête depuis toujours, en fait. Et je lisais de la littérature classique française quand j'étais petite parce que j'ai grandi en France, donc c'était ce qui était le plus accessible pour moi. Et après, j'ai commencé un peu plus tard, à l'adolescence, à m'intéresser à la littérature africaine. Et quand moi, j'ai décidé de m'attaquer, donc j'ai fait quelques petits projets avant l'exode des Capoquiers, mais quand j'ai décidé d'écrire The Book, le livre, c'était évident pour moi qu'il fallait que j'écrive sur ce sujet-là, puisque j'ai grandi dans un contexte, donc j'ai grandi dans les années 90 en France, et depuis que je suis jeune, en fait, on fait que parler des immigrés, c'est toujours un sujet d'actualité, mais toujours, 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 en fait, et ça l'est encore aujourd'hui. Et moi, donc, je suis de l'autre côté, puisque je suis enfant d'immigrés, et je me dis que la manière dont on en parle un peu de façon déshumanisée, on les désigne de façon un peu abstraite, en disant ah, les immigrés, c'est un problème social, c'est un problème économique, etc. Et j'avais juste envie de raconter notre version à nous, immigrés, descendants d'immigrés, pour en fait rappeler notre humanité. Mmh.
Ton roman, L'Exode des Capotiers, est nourri d'histoire, de mémoire, mais aussi d'intimité. Quelle est la première image ou émotion qui t'a poussé à écrire ce livre ?
La première image ou émotion qui m'a poussé à écrire ce livre, disons que peut-être bon, je veux pas évoquer un sentiment négatif, mais je dirais un peu la révolte quand même, parce que voilà, j'avais vraiment il y avait polémique sur polémique en fait, et j'avais vraiment envie de réagir à ces polémiques en écrivant ce livre, donc je dirais la révolte.
Mais tu es juriste de formation, on l'a dit, on a écouté Fatih, elle a bien parlé de ce parcours et tout, de tes études. Comment ton métier influence-t-il ta manière de raconter ces histoires-là ?
Alors, je dirais pas que ça a une influence sur la manière dont j'écris, mais ça a une influence dans la manière dont je structure le récit, puisqu'en fait, en tant que juriste, il faut toujours être très rigoureux. Et je pense que ça m'a aidé dans l'écriture de mon livre pour définir un peu quel chapitre allait à quel endroit, dans quel ordre j'écrivais l'histoire, à quel moment je faisais des flashbacks, etc. Donc je pense que ça m'a plutôt aidé à produire quelque chose d'organisé, on va
avec
dire.
De la rigueur.
Voilà.
Alors, Rougiatou, tout à l'heure, tu as dit que voilà, toi, tu étais née durant ces années-là. C'est pour ça que tu t'es, entre guillemets, sentie obligée d'écrire sur ça. Mais moi, j'ai envie de te demander pourquoi remonter aussi loin quand on a plein d'histoires actuelles d'immigrés en France ? Ce ne sont pas les mêmes.
Parce que là, c'est la première génération.
D'accord.
La première génération, c'est la génération de mes parents.
D'accord.
Voilà. C'est la génération de tous les adultes auprès desquels j'ai grandi en étant jeune. Et en fait, j'avais juste envie de leur rendre hommage. Donc c'est ça qui a fait que j'ai écrit sur cette génération. Et c'est un premier tome, parce que j'ai l'intention d'écrire un deuxième tome sur la génération suivante. Donc,
Évidemment. Écoute, je vais te poser une question beaucoup plus profonde, tu vois. Ton livre, il parle de migration, d'exil, de silence et de reconstruction. Comment as-tu trouvé l'équilibre entre transmission de la douleur et célébration de la résilience ?
Alors, c'était vraiment... disons que tout cela n'a pas été très réfléchi, c'est très spontané.
C'est
en
ton
fait.
Ressenti.
C'est très spontané. Oui, la manière dont j'écris le livre, en fait, c'est spontané. Donc, j'ai pas écrit ce livre de façon scientifique en me disant, oui, il faut que je mette telle dose de résilience, oui. Telle dose de... Voilà, c'est plus oui, et comment j'ai ressenti... En lisant des témoignages, en écoutant des témoignages, etc.
En voyant ta famille aussi.
Exactement, comment j'ai ressenti les choses. C'est comme ça que je l'ai retranscrit dans le livre, sans forcément faire des calculs mathématiques, en fait. Voilà.
Moi, je voulais te parler du titre de ton livre.
Oui.
L'exode des Capoquiers. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, les Capoquiers ?
Alors, les Capoquiers, ce sont des arbres qui sont très fréquents dans la région du fleuve Sénégal, ou en tout cas en Afrique en général, mais il y en a aussi aux Antilles d'ailleurs, je crois, puisqu'on l'appelle aussi fromager.
Ok.
Voilà, et c'est un arbre en fait, avec. Bon, il est un peu illustré sur la couverture si vous voyez,
oui.
Avec un tronc un peu fort. Et c'est un arbre qui est très. Enfin, parce que les immigrés qui sont évoqués dans le livre, ils viennent de la région du fleuve Sénégal, oui. Qui est une région qui est à cheval sur le Sénégal, la Mauritanie, le Mali. Et donc c'est la première région d'émigration d'Afrique. Et donc voilà, donc j'ai pas allé décapoquer parce que ce sont des arbres qui sont profondément enracinés. Et les immigrés également, ils sont attachés à leur culture.
D'accord.
Et les Capoqués, en fait, et l'exode des Capoqués évoque le déracinement qu'ils ont vécu en quittant leur terre pour venir vers la France.
D'accord.
Il y a une vraie recherche scientifique derrière. Hein.
Aux Antilles, on n'a pas la même image du Capoqué.
Ah oui ?
Non, en fait, chez nous, c'est un arbre très légendaire.
Oui, j'ai entendu ça.
C'est un arbre qui accueille une créature mythique. Une forte créature qui...
Les soucougnons, non, c'est pas
c'est
ça?
C'est ça, exactement, j'ai pas voulu le dire. Mais oui, voilà, qui accueille les soucougnons et...
Qui sont des esprits, en fait, si j'ai
voilà,
bien compris.
Voilà, des esprits malins.
D'accord.
Ils sont pas sympas.
Mais on connaît aussi, hein, parce que donc, les personnes qui sont dans le livre sont Toukoulas, donc c'est une ethnie, et on a exactement le même terme, sauf que ça se termine en O, donc c'est soucougnons. Et pas soucougnant en fait. Donc,
okay.
Je pense que. Et
le
c'est
lien,
des esprits
c'est
aussi.
Incroyable.
Donc, j'ai découvert ça, je me suis dit, ah bon, c'est marrant.
Rugiatu, est-ce que. Non, tout d'abord, qu'est-ce que t'aimerais que l'on retienne de ton livre
Que derrière les immigrés, il y a des êtres humains, tout simplement. J'aimerais qu'on retienne ça. J'aimerais aussi qu'on retienne que. Il y a des êtres humains, donc avec toute la complexité qu'implique un être humain, la dimension culturelle, la dimension émotionnelle, la dimension complexe, etc. Voilà, j'ai beaucoup insisté sur l'aspect culturel parce qu'en fait, on parle vraiment des Africains, on les désigne un peu de façon... Enfin, je trouve que c'est un peu superficiel la façon dont on évoque la culture africaine. En général, on met quelques touches de tissu bariolé, on met quelques tam-tams et puis c'est fini. Et là, j'ai essayé d'aller plus en profondeur. Et ce n'était pas forcément naturel chez moi. J'ai dû faire des recherches pour le faire parce que, ayant grandi en France, je connaissais ça, mais pas de façon forcément très profonde. Donc voilà.
Et est-ce que tu aurais un mot pour ceux qui croient encore en cette émigration ? Parce que finalement, dans ton livre, tu délivres les réalités du terrain qui sont pas belles. Est-ce que tu aurais un mot pour ceux qui croient encore en cette émigration et qui parfois vendent tous leurs biens pour accéder à cette émigration ?
C'est vrai que je ne peux que leur dire que la façon dont ils perçoivent l'immigration est idéalisée. Voilà, après, c'est peut-être entretenu par les émigrés eux-mêmes qui vendent du rêve et qui étalent leur richesse. Mais cette immigration est certainement un peu fantasmée.
Surcotée.
Oui, surcoté, oui, certainement. En tout cas, je les encouragerais à essayer de trouver leur subsistance là où ils sont et d'essayer de développer leur pays. Parce qu'il y a énormément de choses à faire en Afrique. Il y a beaucoup de développement à faire et ça implique des projets très intéressants dans tous les secteurs agricoles, etc. Donc, moi, j'encourage en tout cas à essayer de développer des choses sur place. Sans forcément après être... Enfin, pour que ce soit pas mal perçu, je suis pas anti-immigration, mais je pense qu'en tout cas, il y a des opportunités sur place à saisir.
Je vais plus loin pour te dire si tu devais transmettre un seul message à la jeunesse afro-descendante d'aujourd'hui à travers ce livre. Quel serait ce message-là ?
Ce message serait que je viens de dire, ne fantasmez pas l'Europe. L'Europe n'est pas forcément un Eldorado. Essayez de voir ce que vous avez comme opportunité là où vous êtes, mais en tout cas le parcours d'émigration est très 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 difficile. J'ai l'impression qu'il est encore plus difficile qu'avant puisque
avec les réalités actuelles.
Voilà. Donc maintenant c'est vraiment l'émigration clandestine, en passant par des bateaux, en passant par la Libye, etc. Alors qu'avant c'était un peu plus souple à l'époque à laquelle j'écris. On avait besoin de la main d'œuvre, donc les personnes arrivaient en France plus facilement. Elles prenaient le bateau, elles prenaient l'avion, elles arrivaient. Ensuite, il y a eu le regroupement familial. Là, l'immigration, il y a eu depuis lors de fortes restrictions sur l'immigration en France, ce qui fait que venir en France c'est périlleux en fait.
Téna, voilà. Je te vois depuis tout à l'heure, je sens que tu as envie de prendre la parole, c'est un sujet qui te parle.
Déjà, je suis admirative de ce qu'elle raconte et aussi des questions que tu poses.
Ah, merci.
Mais ça me fait des... En fait, je pensais à un parallèle avec un artiste sénégalais que je connais, un photographe qui travaille aussi sur les questions d'immigration. Et lui, il s'appelle Pop Chain, et il expliquait que la responsabilité aussi était de... Enfin, que chacun avait sa responsabilité, notamment à travers les réseaux sociaux. Les photos qu'on prend, par exemple, si on va à Tour Eiffel, etc., les restaurants, les photos qu'on véhicule. et qu'ils voient du coup de leur côté. Et lui, il travaille justement à prendre des photos, il fait des expositions sur des photos qu'il prend en foyer ou sur des quartiers, qui montrent la réalité, certaines en tout cas réalités.
Oui, je vois ce que tu dis. On ne prend pas les photos à Château Rouge, on prend plutôt les photos à la Tour Eiffel et on fait croire que tout est beau, tout est rose, tout est... voilà.
Et non, mais c'est super intéressant.
Ça fait fantasmer et c'est justement le mot que tu utilisais tout à l'heure. C'est vraiment faire fantasmer.
Oui, après, il y a une chose qui fait que le fantasme est un peu justifié, c'est le fait qu'en France, quand on gagne un SMIC, par exemple, ça vaut beaucoup plus que...
Exactement.
En fait, on peut faire énormément de choses avec un SMIC en Afrique, en fait. Et les personnes qui sont en France... Comme elles envoient énormément d'argent au pays, en tout cas c'était le cas de la génération de mes parents, l'argent qu'elles envoyaient, ça ne représentait pas grand-chose en France, mais ça représentait énormément en Afrique, ce qui donnait l'impression aux Africains que, en fait, ils étaient riches. Et donc ça, c'est quand même un peu basé sur une réalité, ou pas vraiment une réalité, mais en tout cas, il y a vraiment un sujet par rapport au pouvoir d'achat, en tout cas. Je pense que c'est quelque chose qui a impacté le rêve que les immigrés ont pu créer, en fait.
J'ai envie de te dire, ne le dis pas au passé, c'est toujours actuel. Hein. C'est toujours vraiment actuel. Alors, c'est très intéressant et merci d'être là avec nous pour parler de tout ça. C'est un sujet qui est super intéressant. Les amis, j'ai envie qu'on fasse un break, une pause musicale et ensuite on va poursuivre. Voici Mami Rio, voilà, le tout nouveau titre de Kélia Paulin. Une ode vibrante à l'héritage et aux liens familiaux portée par une voix à la fois chaude et puissante entre rythme afro et mélodie envoûtante. Kélia nous plonge dans un voyage intime, un hommage à ses femmes piliers, ses mamies qui nous élèvent et en silence. Hein. Une chanson qui résonne comme un chant d'amour entre mémoire, émotion et fierté. Fermez les yeux, Mami Rio est là et Kélia Paulin vous emmène au cœur de l'âme.
Vous suivez Mon Afro Paris sur Mon Paris FM.
Tele a capale bao ba ka ongo te lo me a kasui bao wa don ofo te le a vini pule de ko fe anti fe se on leo tu sta capare tu pe bon mi tu juni o munde eu ni o la via o so me o di o marca ti o leo te pe ki tanto na di so tu te ishu Quand a regardé, qu'a mis jeté, et fait casser l'ambiguïté, pour chaque disparaître. Mais la famille battait à bord, y'a tout qu'à mettre couvert. Personne n'en va ni l'est d'accord, y'a m'en pas de tweet, et j'a désert. Où t'es qu'il y a ma lève et corps, mais tes épis sous à l'honneur. Est-ce que c'est maman encore, la vie tourne à l'envers? Les acquérivés,
senti, t'es combien fragile. Où les amis tranquilles, où c'est les rejoignes, je dis tout ça que j'ai bâti. Tchao, j'accapresse, flétri, mon soleil bat à l'infini. Mais ni vous ni moi, nous pas mettre, c'est tu y.
Démarrez votre week-end avec la Team Afro dans Mon Afro Paris.
Ah, c'est trop beau. Cynthia, tu voulais me traduire cette chanson. Elle est trop, trop belle.
Oui, je vais vous la traduire. Vous voulez qu'on traduise maintenant? On a deux heures ou pas?
Mais elle est trop belle. Merci beaucoup, Akilia, pour cette chanson.
Ce message à sa grand-mère qui lui dit... c'est sa grand-mère qui est partie il y a
justement,
quelques
les mamies,
temps.
Ouais.
Voilà. Et elle lui dit qu'elle voudrait faire, qu'elle est au fond de son fauteuil, elle voudrait faire plein de choses, mais qu'elle ne peut pas. Mais ne, qu'elle, qu'elle ne s'inquiète pas, elle est à côté d'elle et qu'il faut qu'elle profite de ses moments avec sa famille et ses petits-enfants. Et qu'il ne faut pas qu'elle ait envie de partir. C'est triste, elle ne peut pas faire grand-chose, mais il faut qu'elle continue sa vie avec...
J'avais compris quand j'ai écouté la chanson qu'elle partait d'un hommage à une personne proche à elle pour rendre hommage à toutes les mamies. Et justement, c'est très très beau comme démarche et c'est très beau comme... J'aime trop les mélodies de cette chanson.
Je Puis elle a une belle voix. En fait, la voix, on n'a pas besoin d'avoir la traduction pour comprendre de quoi elle parle en fait. C'est ce qui est fort avec Kélia Paulin, c'est qu'elle transmet des choses, elle transmet des énergies par sa présence, par sa voix, par les mélodies qu'elle choisit. Et on sent qu'il y a un beau travail d'ailleurs, de ses musiciens derrière. C'est, franchement, elle est incroyable. Bravo. Je ne sais pas
Bravo.
Si elle nous entend.
Elle c'est une belle chanson. Elle va nous réécouter, c'est sûr. Maintenant, nous sommes en compagnie d'une autre personne, voilà, l'une de nos invitées, que tu vas nous décrire, nous inviter, nous présenter.
Alors, je vous présente Evelyne Gomis, fondatrice de l'école Easy Collé, fondée en 2020. C'est une école qui met en avant la culture afro. Cette école propose aux enfants des cours sur l'histoire caribéenne, l'entrepreneuriat, l'éducation financière, la confiance et l'estime de soi, l'éco-responsabilité, la gestion de projets et la communication bienveillante. La créativité, l'excellence et la bienveillance sont les mots d'ordre d'Evelyne Gomis à la création de cette école. Elle-même maman de deux garçons, elle constate que l'école... classique, on va dire, entre guillemets, n'enseigne pas à ses enfants les fondamentaux qui leur serviront à se réaliser en tant qu'humain. Evelyne termine ses études de droit. Elle travaille quelques années dans les ressources humaines, puis crée l'école Easy Collé, une école pour les enfants, mais aussi pour leurs parents. Bonsoir, Evelyne.
Bonsoir.
Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose à cette présentation?
Je pense que tout a été dit. C'est une très belle présentation. Effectivement, on travaille avec les enfants, mais également avec leurs parents. On va vraiment au cœur de l'éducation, finalement.
Je pose souvent cette question-là. Je suis très à cheval sur les significations des mots. Mais que veut dire Easy Collé?
Ah, je l'attendais. Donc, Easy Collé, ça signifie école en langue zoulou.
D'accord.
Donc, parler en Afrique du Sud. Et on nous pose souvent la question, pourquoi le Zoulou? Tout simplement parce que c'est un peuple qui a une histoire très forte, très riche, et qui la maintient en fait, aujourd'hui, qui maintient sa culture, ses traditions. Et donc voilà, c'était un petit clin d'œil, également un clin d'œil au système de transmission ancestraux africain.
D'accord.
Où l'enfant avait vraiment une place et où on tenait vraiment à cette histoire de transmission.
Okay, je vais juste digresser, hein. Juste digresser. Moi, j'ai pensé que c'était, ça voulait dire, ils sont collés.
En quelle langue?
Ah, non.
En quelle langue?
Dans ma tête. Ils y collés, ils sont collés.
Ah, moi, j'ai pensé à école facile, easy, en anglais.
Ah oui, souvent.
Oh, oui. Les références anglophones.
Effectivement, c'est ce qui revient
Donc,
souvent.
Donc, en fait, ma question avait bien lieu d'être. Hein.
Complètement, elle avait bien lieu d'être.
On a tout interprété.
Bah oui.
Et à partir de quel âge l'enfant peut avoir accès à votre école?
À partir de 5 ans. Donc à partir de 5 ans, donc l'enfant est en grande section, commence à comprendre beaucoup de choses et surtout à interagir avec ses camarades. Donc la particularité de notre école, c'est qu'on fait des cours en ligne et en présentiel. Donc voilà, c'est Bon, bah, à 5 ans, on est quand même encore très actif et on a beaucoup envie de bouger. Mais voilà, on prend les enfants à partir de 5 ans.
D'accord.
On sent chez toi une volonté de casser les codes traditionnels de l'enseignement. Qu'est-ce qui manque selon toi, justement, à l'école classique pour réellement élever les enfants?
Alors, de les casser, je ne sais pas. Je dirais plutôt de les compléter. Effectivement. Nous, le travail qu'on fait, techniquement, c'est le travail que les parents sont censés faire. Sauf qu'aujourd'hui, on donne une place à l'école classique qui nous laisse comprendre que, ben, on envoie notre enfant à l'école et puis tout est fait à l'école. Non, c'est pas vrai. Et donc, en fait, il y a un gap qui se crée et nous, on est là pour combler justement ce gap et aussi apprendre, enfin, ou réapprendre aux parents à se ressaisir de l'éducation de leur enfant.
Mais après... c'est vrai que même c'est la tranche horaire, pardon.
Non, excusez-moi. Non, il n'y a pas de souci.
C'est les tranches horaires données aux enfants dans une journée pour pouvoir aller à l'école, ben, en fait, ils passent plus de temps à l'école qu'avec leurs parents.
Exactement.
Et malheureusement, il y a des professeurs des écoles qui disent, mais nous, on n'est pas là pour éduquer les enfants. Mais le problème, c'est qu'à quel moment on le fait? Parce que l'enfant rentre de l'école, ben, en fait, il mange, il dort.
Oui,
il se réveille, il va à l'école. Il n'y a pas le temps de faire ça. Bon, il y a le week-end, mais le week-end, c'est que deux jours dans une semaine.
Oui, mais en théorie, je rebondis sur ce que tu disais, en théorie, c'est ce qui devrait être fait. L'enfant part à l'école, là, tu as dit, en quelque sorte, on laisse beaucoup de responsabilités à l'école. Mais tu n'iras pas le fait qu'en théorie, l'école devrait assumer ces responsabilités-là. C'est le but de l'éducation.
Une partie. Alors, moi, je fais la distinction entre éducation et instruction.
Voilà. D'accord.
Pour moi, l'école, elle est censée instruire.
À pas éduquer.
Elle peut donner une certaine éducation, mais pour moi, la responsabilité, elle revient majoritairement aux parents.
D'accord. Après, pour moi, l'école influence.
Aussi.
Voilà. Parce qu'il y a des parents qui ne sont pas OK avec l'éducation. Enfin, on ne voit pas l'éducation tous. Chaque être humain ne voit pas l'éducation de la même façon.
Exactement.
Donc, c'est délicat de confier son enfant à déjà un adulte qu'on ne voit pas. Déjà, on le fait parce que bon, il a été formé pour des matières, il n'a pas été formé pour éduquer.
Exactement. C'est pour ça que je fais cette distinction entre donc éducation et instruction.
Et vous avez une capacité de combien d'élèves dans votre école?
Alors, on a une capacité qui est assez illimitée, on va dire. Donc, comme je le disais précédemment, en fait, donc on fonctionne en mode hybride. Donc, on a des cours en présentiel cours et ateliers en présentiel et des cours en ligne. Donc, finalement, on a des enfants qui sont partout, pas uniquement en France ou même pas uniquement en Île-de-France. Donc, on a des enfants qui sont dans toute la France et dans d'autres pays. Donc, on a plusieurs groupes. Et par contre, au niveau des groupes, on a une restriction qui est de 15 enfants maximum.
Et combien de professeurs?
Cette année, on a 4 professeurs.
Alors, nous, on vous connaît un peu. On vous l'a pas dit, enfin, on te l'a pas dit au début, mais Cynthia, elle avait déjà fait une découverte. C'est comme ça qu'on a découvert, nous, Easy Coding, dans la rubrique découverte de Cynthia. Et on a commencé à s'interroger, à se poser des questions dessus. Du coup, l'approche d'Easy Coding mêle développement personnel, culture afro-caribéenne et entrepreneuriat, si j'ai bien compris. Pourquoi était-ce important de proposer ce mélange? Pourquoi était-ce si important?
C'est important parce que la vie est faite de choses diverses. Et en fait, si vous regardez bien un petit peu notre programme ou toutes les thématiques qu'on aborde, tout est interconnecté. Donc, on va parler d'estime de soi, de confiance. On a parlé d'entrepreneuriat, par exemple. Nous, la gestion de projet pour les enfants, ça leur permet justement de se dire qu'ils sont capables de passer à l'action et de se dire « Ah oui, effectivement, j'ai des capacités, je peux avoir confiance en moi et même si je ne connais pas quelque chose, je peux y aller en fait, je peux prendre ce courage-là d'y aller et je peux être dans l'action directement. » Donc, tout est interconnecté. On a des thématiques qu'on va aborder qui sont plus des outils finalement qu'il n'y a pas forcément d'objectif de se dire bon, on va former les entrepreneurs de demain. S'ils le deviennent, c'est très bien, mais faire de la gestion de projet, ça va leur servir dans la vie de tous les jours en fait.
Et les parents qui nous écoutent, qui sont intéressés pour inscrire leurs enfants, comment ils font?
Alors ils se rendent sur notre site internet easycoler.sococo, c'est un petit peu long mais vous retrouverez les liens et ils inscrivent leurs enfants tout simplement. Donc on fait des rentrées tous les ans, donc au mois de septembre comme à l'école classique, donc c'est une activité périscolaire. Donc les inscriptions ouvrent là, incessamment sous peu, et donc ils peuvent s'inscrire comme à une activité classique.
Et tout au long de l'année
particulièrement à la rentrée et on ouvre jusqu'au mois de décembre.
Et quel est l'âge limite ? À partir de quel âge Easy Collet ne suit plus l'enfant ?
À partir de 18 ans.
À partir de 18 ans ?
Oui.
On t'estime, d'une certaine manière, qu'à partir de 18 ans, on n'a plus besoin de cours de confiance en soi. Explique-moi alors.
Il fallait qu'on cadre, forcément. Moi, mon grand désir, c'est de pouvoir accompagner justement au-delà de 18 ans, parce que justement, je pense qu'il y a une vraie problématique à ce niveau-là, où quand on arrive à 17-18 ans, on commence à grandir un petit peu, et donc les adultes ont tendance à se dire « bon, bah, c'est bon ». Hein, il est grand ou elle est grande, il peut faire sa vie, etc. Et je pense qu'au contraire, c'est là où on a le plus besoin d'accompagnement et le plus besoin des adultes.
Et on ne le sait pas encore.
Hélas.
Hélas. Tu parles de beaucoup de choses, beaucoup de thématiques, beaucoup de sujets et tout, mais tu parles aussi de bienveillance comme un pilier éducatif. Alors, comment la traduis-tu complètement, concrètement, dans le quotidien de ton école ?
On le traduit dans le sens où l'enfant, c'est un individu à part entière. Ce n'est pas quelqu'un à qui on donne des ordres et sans réfléchir. Et voilà, c'est un être qui réfléchit. Je pense qu'on a tous des enfants ou cousins, cousines, neveux. Ils parlent beaucoup. Des fois, ils disent des choses qui nous piquent un petit peu. Et en fait, ce sont des êtres à part entière. Et souvent, on a tendance à les reléguer un petit peu à la seconde place. On s'assure souvent que de la partie matérielle ou très productive. Bon, je t'envoie à l'école et je te nourris, je te blanchis, etc. Donc, ça va. Mais en fait, il faut aller au-delà de ça. Et surtout dans notre communauté afro-caribéenne, on a beaucoup de problématiques de communication avec nos aînés, etc. Et donc, la bienveillance, elle vient de là. Elle vient du fait que on peut avoir des échanges entre adultes, entre enfants. Moi, je suis issue du peuple Mandjak et chez nous, on dit qu'on peut aussi bien apprendre d'un bébé que d'un vieillard. Donc, on donne vraiment cette importance-là à l'enfant.
Et la modestie, l'humilité, la modestie.
Tout à fait, tout à fait.
Mais pourquoi tu as parlé de compléter ? En fait, Easy Collet, si j'ai bien compris, si on a tous bien compris, ça vient compléter l'école classique. Pourquoi ne pas s'affilier directement à des écoles classiques ?
Alors ça, c'est un sujet
qui est très technique.
Oui, oui. C'est un sujet, c'est un vrai, vrai, vrai sujet.
C'est une aspiration peut-être ?
C'est une aspiration, effectivement. L'éducation nationale, elle est particulière. On peut et on a déjà travaillé avec des écoles alternatives. Donc ça, on est vraiment dans la même ligne directrice. Donc disons que ça passe de manière fluide. L'éducation nationale, c'est autre chose. Il y a beaucoup de codes et parfois aussi des réticences par rapport à des systèmes qui sont un petit peu parallèles, on va dire. Donc...
Après, c'est le système public qui veut ça.
C'est ça.
Quelle place accordes-tu à l'estime de soi et à l'expression personnelle dans le parcours scolaire des enfants ?
C'est impératif. C'est impératif.
Est-ce que c'est la base d'Easy Collet ?
C'est une grosse, 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 grosse base. En fait, si on regarde bien, on a beaucoup d'enfants qui sont en souffrance à l'école parce qu'on essaye de les mettre dans des cases, mais en fait... On a l'impression que ça fonctionne, mais en fait, ça ne fonctionne pas. Ouais. Il y a des enfants qui sont en souffrance.
Parfois, ça empire les choses.
C'est ça.
Exactement.
Et même si ça fonctionne sur l'instant T, à long terme, ils décrochent.
Exactement. Donc, ça ne fonctionne pas. Donc, certains arrivent à, jongler avec tant bien que mal, mais il y en a d'autres pour qui c'est problématique, qui sont déscolarisés, etc. Sauf que si on avait pris le temps d'individualiser. Après, je sais pertinemment que dans l'éducation nationale, c'est compliqué. Les enseignants ont 25-30 élèves à gérer, donc faire de l'individuel, c'est compliqué. Mais je pense quand même qu'on peut trouver des solutions pour que les enfants, justement, aient de la bienveillance les uns envers les autres et pour que les adultes qui sont dans le système scolaire aient aussi de la bienveillance envers les enfants.
Et comment l'enfant, là je me mets dans la peau... d'une enfant. Comment l'enfant
n'est
pas
très
compliqué.
Oh là là.
J'attendais, je le sentais venir.
C'est juste un rappel.
Ça y est, elle a mis une robe longue.
Je me mets dans ma propre peau. Je me mets dans ma propre peau. Alors.
Voilà.
Je me mets dans ma propre peau.
Comment nous
Comment on fait pour Non, mais parce que là, vous m'avez obligée. Je ne sais plus quoi dire. Comment on fait pour gérer et Easy Collet ? Imaginons là, je m'inscris demain. Comment je fais pour gérer et Easy Collet et l'école classique ? À quel moment ? Parce qu'il y a quand même des risques que l'enfant se confonde.
Le périscolaire ?
C'est ça.
C'est du périscolaire ?
Ah oui, effectivement. Donc c'est du périscolaire. Oui, effectivement.
C'est le samedi ?
Oui, c'est le samedi. Donc on va avoir les cours en ligne, on va avoir des ateliers.
D'accord, mais voilà.
C'est pour ça qu'elle a dit que c'est en plus.
Toi, tu parles plus d'un point de vue apprentissage.
C'est ça, moi je parlais plus d'un point de vue idéologique. C'est pour ça que j'avais pas entendu quand il disait périscolaire. Mais oui, plus d'un point de vue idéologique. Aujourd'hui, c'est estime de soi, confiance en soi. Demain, c'est mathématiques. À quel moment, comment je jongle?
De la même manière que le matin, ils vont avoir telle activité à l'école et que l'après-midi, ils vont aller jouer au foot ou...
C'est beaucoup plus ludique.
C'est ça, mais reconnais quand même que les sujets que tu abordes sont des sujets lourds.
Lourd, pas vraiment. Alors après, ce qu'il faut savoir
après,
au niveau d'Easy Collé...
Après, c'est déjà qu'il en fait du bien. Donc...
Effectivement. Et quand on est chez Easy Collé, on n'est pas assis derrière un bureau et puis à intégrer tout ce que l'adulte veut bien raconter, etc. Non, c'est très participatif, c'est très ludique. L'enfant, il co-construit son cours ou son atelier, il est vraiment acteur, en fait. Et donc, au niveau de notre pédagogie, l'idée, c'est pas justement d'apprendre du par cœur. D'accord. Tu es là, tu as le droit de poser des questions, tu as le droit de remettre en question ce qu'on te dit, bien évidemment dans un cadre respectueux, etc. Parce qu'on a souvent tendance à prendre remise en question comme quelque chose de négatif, alors que
pas
ça peut
tout.
Ne pas être le cas. Et en fait, tout ce qu'on propose aux enfants et la manière dont on le propose, ça ne peut qu'enrichir leur expérience à l'école. Par exemple, on va parler d'estime, on va parler de confiance, etc. Ou même des sujets, des thématiques un petit peu plus, disons, classiques qu'on va aborder. C'est fait pour les enrichir, en fait. Un enfant qui va avoir, par exemple, à l'école classique, des difficultés à s'exprimer devant ses camarades ou répondre à des questions, etc. En fait, la manière dont on va interagir avec lui et la manière dont les cours vont se dérouler chez nous ou les ateliers vont lui permettre de se dire « Ok, si je peux le faire là, je peux le faire à l'école. » Donc, j'ai pas de raison, en fait, finalement, de me retenir, de parler, de poser une question ou même de donner une mauvaise réponse, entre guillemets, parce que c'est la vie, en fait. J'apprends et voilà.
Alors, moi, j'ai 1000 questions, mais il faut choisir une.
Moi, je voulais écouter Téna, qui, depuis tout à l'heure, elle lève son petit doigt comme à Easy Collé. À Easy Collé, on n'est pas le doigt, on parle.
Non, à Easy Collé, effectivement, on parle.
On parle. Donc là, Téna, elle a envie de parler. C'est très passionnant et elle a envie de poser une question.
C'est important.
Vas-y, Téna.
D'écouter jusqu'au bout. Mais en fait, je me demandais si vous enseignez, par exemple, l'histoire aussi au sein de l'école.
Exactement, l'histoire afro-caribéenne.
Voilà. Et du coup, ce qui est incomplet, selon mon vécu, mon expérience dans l'éducation nationale, c'est justement le côté de l'histoire qui
n'est pas racontée comme on aurait voulu.
Qui est l'éducation nationale, donc le roman national, donc leur histoire. Et du coup, je me demandais, est-ce que des fois ça peut créer un conflit ou confusion quand vous abordez ces aspects-là historiques?
Pourquoi il y aurait confusion?
Parce que là, tu es des deux parties. Là. On a le côté des, entre guillemets, vainqueurs. Et puis
voilà.
On a...
Disons que c'est...
Parce qu'on a deux angles différents. Et l'éducation nationale raconte l'histoire sous un angle. Et vous, quand vous allez raconter comme vous le voyez, avec le regard d'un afro-caribéen, c'est pas pareil.
Mais justement, les enfants peuvent comprendre qu'il y a deux parties de l'histoire. Et c'est OK.
Après,
et c'est OK.
De la même manière que, je sais pas, on va avoir les parents qui se disputent. La maman, elle va dire « Ah non !» Ton père, là, c'est pas bon. Et puis le père qui va dire, non. Toujours ta mère, elle cherche les palabres. Et on continue à évoluer
après,
avec
temps,
nos parents, en
si
fait.
Si on regarde les cours d'histoire classiques, je sais pas s'il y a des profs qui... La personne qui a écrit les livres d'histoire m'écoute. Mais il n'y a pas beaucoup de... On ne nous parle pas beaucoup de la culture caribéenne.
Non, on
ne
nous parle pas
donc,
beaucoup
en fait,
de
ça, c'est vraiment... Vous venez vraiment compléter l'histoire. Donc il n'y a pas de conflit. On vient,
y a
vient ajouter voilà,
exactement.
Le trou qui manque. Parce que aux Antilles, par exemple, mes cours d'histoire, on me parlait des Gaulois. Moi, j'étais persuadée que mes ancêtres étaient les Gaulois. Ils n'étaient pas de la même couleur que moi. Et c'est quand j'ai découvert l'histoire de la Guadeloupe que je me suis dit « Ah oui, ok !» Je ne me suis pas dit « Non, en fait, ils ont tort ou ils ont raison. » Je me suis dit, ok,
tu as senti que c'était ça. T'as senti, t'as compris tout de suite que c'était ça.
En fait, c'est ça. L'éducation nationale ou voilà, la France de manière générale ou même un autre pays, en fait, ils racontent ce qu'ils ont besoin de raconter et sous leur prisme à eux. Les enfants, ce qu'on leur explique, c'est que nous aussi, en tant qu'Africains, on a notre prisme à nous et qu'on a plein de choses à raconter. Et que si les autres veulent nous définir d'une certaine manière, quand on regarde les livres d'histoire, souvent c'est l'esclavage, la colonisation, donc les colons qui ont sauvé les pauvres petits Africains, la pauvreté, la corruption et la guerre.
Ok.
En fait, il n'y a pas que ça.
Il n'y a pas que ça.
Nous, notre travail, c'est justement de montrer tout le reste. Oui, il y a eu des choses, moins positives ou moins glorieuses, etc. Et même ces choses-là, en fait, on les accepte. Juste, on les raconte de notre point de vue à nous. Et finalement, justement, ça donne un regard critique aux enfants à l'école. Et on a souvent ces anecdotes-là qui reviennent quand les enfants prennent la parole en cours d'histoire à l'école et qui disent « Oui, mais en fait, l'histoire que vous racontez sur la colonisation, comme quoi les colons auraient amené des hôpitaux et des routes, moi, je ne suis pas très d'accord. » Et donc, l'enfant argumente. Mais on a eu, franchement, je pense, au moins 10 témoignages comme ça.
Et c'est là que c'est intéressant, parce que c'est là qu'on voit le travail de confiance en soi. Et
exactement.
L'enfant a la force de dire non, c'est pas ce qui s'est vraiment passé.
Exactement. Et pas dans la colère ou dans la confrontation, etc. Juste, ben, moi, j'ai appris une autre histoire, donc confrontons nos idées. Et souvent, le retour qu'ils ont, c'est... Oui, tu as raison, mais ce n'est pas au programme.
D'accord.
Okay. Parfait.
Voilà.
C'est très intéressant. Merci beaucoup de nous raconter tout ça. Tu vois, il existe tellement de monde. Tu vois, ce monde-là, c'est un monde qui est bon de connaître, surtout pour les enfants, pour nous. Et je pense que Fatih, elle a appris beaucoup aujourd'hui dans cet univers où elle vit tout le temps. C'est très, très bien. Je suis content. On va faire un break, chère dame, cher monsieur. On va faire un break en musique. Entre désir et vérité et quête d'amour sincère, elle nous livre un morceau à la fois sensible et puissant dans la lignée de ses influences soul et caribéennes. Je veux savoir, c'est le titre, c'est cette question qu'on s'est tous déjà posée une fois et qu'elle chante avec émotion et audace. Notre bonbon, la talentueuse Manzelizi, revient avec Je veux savoir, un titre intense, porté par une voix profonde et des paroles qui touchent droit au cœur. On l'écoute tout de suite.
Mon Afro Paris, votre émission afro sur Mon Paris FM.
Pour les courbes de mon corps, pourtant moi j'ai bien d'autres trésors. Comment veux-tu que je puisse y croire quand tous les autres ont les mêmes intentions que toi? Impossible là de croire en demain, sachant que tu ne veux que des va-et-vient. De mon cœur, je veux que tu sois le gardien.
Mon Afro Paris sur Mon Paris FM.
C'était plutôt, je veux croire, Lizzie, à l'instant, sur les antennes Montparis FM, dans mon Afro Paris. Toujours en direct, merci aux réalisateurs Léo et Jason qui font tout pour que cette émission soit diffusée en direct. Vous nous suivez aussi voilà, sur le site, vous allez avoir le podcast en ligne sur les différentes plateformes de diffusion à partir de ce soir, 21h, 22h. Vous allez pouvoir nous réécouter pour ceux qui vont rater ce direct. Toujours avec nos invités, Steve. Je te laisse le micro pour nous présenter cette charmante chanteuse qui est avec nous.
À mon tour pour présenter Miss Ténin. Alors Ténin est une chanteuse française d'R&B à l'univers captivant et profondément introspectif. Née d'un papa sénégalais, elle est sénégalaise, vous êtes en force là ce soir avec nous. Hein. Et d'une maman d'origine polonaise et slovaque, elle puise dans ses racines multiculturelles une richesse artistique qu'elle transforme en musique sincère et puissante. Ayant grandi dans le sud de la France, on l'entend à son accent de Toulouse.
Exactement.
Elle fait ses premiers pas dans l'écriture à travers le hip-hop, avant de s'épanouir dans le R&B américain, puis d'élargir son spectre musical au trip-hop. Son style mêle ainsi texture électronique, groove organique et voix chargée d'émotions. Repérée par Tricky, elle signe en 2019 sur son label False Idols. J'ai un accent moi aussi, je veux prendre des cours avec toi Cynthia. Hein. Avec le morceau Il You, puis rejoint Kitsune Music avec Guys in Tears. En 2021, elle part en tournée avec l'artiste sud-africaine Dope Saint-Jude, collaboration qui donnera naissance à l'EP Blossom. C'est ça, hein?
Blossom.
Blossom, Blossom, bien joué. Ode à la résilience et au métissage culturel. Sa discographie, marquée par des titres comme Ceux qui restent ou Too Late to Cry, reflète une volonté de transformer les douleurs et les espoirs en œuvres universelles. Ténin a été saluée par des médias internationaux tels que Her Milk, Afropunk, Notion Magazine ou encore RTS1. Et elle se produit régulièrement en France et à l'international, messieurs dames, attention. Notamment dans le cadre de la tournée Time is Color.
Ah, Ténin... Après.
Ah, oui, après, s'il te plaît. Non, c'est bien, c'est bien. T'as des choses à dire. Ténin, c'est une voix singulière, une artiste complète, un pont entre les cultures, les genres et les émotions. Ténin, nous t'écoutons. Vas-y.
Bonsoir, dis-moi. Ténin, bienvenue.
Bonsoir.
Bonsoir, merci. Bah, c'est joli. Merci pour la présentation. Non, c'était juste la correction de la tournée. Mm-hmm. J'ai fait quelques dates avec Time is Color, qui est un groupe de jazz. Mm-hmm. Et je suis plus dans la tournée, effectivement. Mais oui, j'ai bien aimé votre présentation.
Eh ben, merci bien.
Toi qui es une artiste indépendante aux multiples influences, comment décrirais-tu ton univers musical à quelqu'un comme Rocky Atou qui ne t'a peut-être jamais écouté ?
Tu m'as volé ma question.
Comment tu décrirais ton univers musical ?
Oui, effectivement, c'est compliqué parce que je suis passée par plusieurs styles et j'ai évolué dans plusieurs styles, mais en fait, c'était ma manière de... parce que la musique est toujours connectée à son évolution en tant que personne, de toute façon, et je la décrirais comme profondément ressemblant à ce que je vis dans l'instant présent, mais avec une forte inspiration R&B. Et donc je dirais que c'est une musique R&B pop qui ressemble au message que j'ai envie de délivrer sur le moment.
Quelles sont les influences musicales qui ont façonné ta vision artistique ?
Moi, chez moi, on écoutait beaucoup de... Enfin, mes parents me faisaient écouter beaucoup de musique africaine. Ensuite, c'était... qui ont façonné... En fait, le mouvement qui m'a donné envie de devenir artiste, c'était le hip-hop. Je sais pas pourquoi, mais en fait, j'étais très vite connectée au rap, mais américain, et aussi aux chanteuses, au R&B américain.
Des années 90 ?
Des années 90,
d'accord.
Oui.
D'accord, Dr. Dre, Snoop, Tupac,
oui.
Tout ça.
Après, j'étais énormément fan d'Eminem, parce que c'était une personnalité charismatique, il a une technique quand même assez exceptionnelle. Et j'étais fan aussi d'artistes comme Brandy.
Wow.
En fait, j'écoutais beaucoup de musique américaine parce que aussi en France, j'avais, en tant que jeune fille, il n'y avait pas beaucoup de personnalités auprès desquelles je pouvais m'identifier. Donc en fait, on va dire que naturellement, je me suis portée plutôt vers ces courants-là américains et surtout afro-américains.
Ces courants t'ont construit, mais pas que. Ton parcours est marqué par une double culture, riche et complexe. Je vais prendre la question dans un autre sens en fait. Comment tes racines sénégalaises, polonaises et slovaques nourrissent-elles justement aujourd'hui ta musique ?
Oui, ma mère, elle a des origines polonaises, slovaques. Justement, on en parlait par rapport à l'éducation, à la transmission. Nous, on est issus de familles assez...
Sénégal in the place to be ce soir.
Ouais, là, mais... Encore un Sénégalais.
Oui. Ah, oui. Bon. Salut, Daniel.
En fait, moi, j'aimerais bien, même pour mon activité musicale, me rapprocher encore plus de mes racines, mais de au même titre que personnellement et au niveau de ma vie. Je pense que je ne l'ai pas fait assez tôt, ou en tout cas, s'il n'y a pas de règles, c'est, je m'en rends compte maintenant qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Et donc, je pense que ça m'a inspiré les le multiculturalisme, mais inconsciemment, mais pas de façon marquée, puisque j'ai évolué en France.
Léna, les paroles de tes musiques transmettent une vision plutôt simple de la vie, notamment dans la musique « Ceux qui restent », où là, on te sent en paix avec ceux qui t'ont laissé. Tu
parles très personnel comme titre quand
même. Très personnel, aussi personnel qu'intimiste. Mais on te sent en paix avec ceux qui t'ont laissé. T'as toujours été comme ça ou ce sont les épreuves de la vie qui t'ont amené à accéder à cette vision-là de la vie?
Oui, en fait, c'est au fil de ma vie, je me suis rendu compte que le plus important, c'est la paix d'esprit. Et donc, pour l'avoir, il faut se débarrasser, ou entre guillemets, d'un certain nombre d'individus, ou alors il faut faire le pas de la recherche de sa propre paix. Et ça n'a pas été le cas, puisque c'est pour arriver à ce type de raisonnement, c'est bien qu'avant, il y avait des choses qui n'étaient pas constructives pour moi.
Et d'ailleurs, maintenant, on va écouter cette chanson, Ceux qui restent.
De Teneng.
Vous suivez Mon Afro Paris sur Mon Paris FM.
J'écoute plus les promesses. Sans cesse les mêmes qui laissent. Toujours les mêmes détresses. Les mêmes qui me blessent. Et c'est toujours les mêmes qui restent. C'est toujours les mêmes qui restent. Toujours les mêmes qui restent. Jamais pour ceux qui testent, eh. J'ai le cœur en feu, je veux lâcher du lust. À chercher le vrai, je suis souvent dans le doute. Rendez-vous à la fin, on verra ce qui reste. On n'a pas tant d'heures, je vois pas pourquoi je donnerais mon temps. J'ai besoin de sens, besoin d'échange, c'est mon essence. J'ai besoin d'énergie, besoin d'être entouré de gens. Ouais, je vais de l'avant. Je donnerai mon temps. J'ai besoin de sens, besoin d'échange, c'est mon essence. J'ai besoin d'énergie, besoin d'être entouré de gens. Ouais, je vais de l'avant, eh. Tant pis pour les absents. On n'a pas tant d'heures, je vois pas pourquoi je donnerai mon temps. J'ai besoin de sens, besoin d'échange, c'est mon essence. J'ai besoin d'énergie, besoin d'être entouré de gens. Ouais, je vais de l'avant.
Les mêmes qui restent.
suivez Mon Afro Paris sur Mon Paris FM.
Vous en faites pas, nous on reste, hein. On
C'était
est là
beau,
jusqu'à
hein.
la fin de l'émission.
Hein. C'était super beau, Téna.
Franchement,
merci, très beau.
Moi j'ai une question, comment, en termes de création, comment ça se passe? Tu fais quoi? C'est d'abord, tu penses à des mots, tu écris un texte, la musique vient après, ou c'est la musique qui va influencer les textes? Comment tu fonctionnes?
Ça dépend des morceaux, mais généralement c'est quand même la musique qui va influencer le texte. En fait, c'est la couleur de la mélodie qui va influencer l'émotion dans laquelle je vais partir, et ensuite le texte.
Et la musique, tu bosses avec qui alors? Qui fait les sons?
Là, je travaille avec Boucle d'Or. Donc lui, il faisait de la musique aussi, reggae. Et enfin, il en fait toujours. Et donc, c'est lui qui a composé Ce qui reste et aussi le prochain morceau.
D'accord, donc il fait des instrus, il te les propose.
Oui, on travaille tous les deux en studio.
D'accord.
Sur les mélodies, sur les textes, sur les voix également. Oui.
Et toi, tu es musicienne également? Tu joues d'un instrument?
Non.
Ou
non, voix.
D'accord, c'est la voix.
C'est mon instrument.
C'est un instrument, la voix, tout à fait. Et tu as envie éventuellement d'un jour d'essayer de.
Ou
du piano,
beaucoup.
De la guitare ou
J'aimerais beaucoup, le piano, j'aimerais beaucoup, pour ne serait-ce pour que.
T'accompagner,
pour m'accompagner.
Et tout. Ouais, c'est beau.
Mais il faut un peu plus de discipline là, pour.
D'accord. Et les séances studio, ça se passe comment?
C'est en général, on part d'une émotion ou d'une histoire que j'ai envie de partager, me concernant. Et avec des mots-clés, des couleurs, des images, on commence par faire une base instrumentale. Et ensuite, on tisse en développant l'histoire.
Ta musique, elle est très très profonde, je dirais même. Moi, je vais très loin en disant qu'elle est un peu spirituelle quand on t'écoute. Quelle place donnes-tu à l'introspection dans ton processus artistique? Est-ce que la musique est pour toi un espace de guérison?
Ouais, ça, j'en parlais il n'y a pas longtemps justement avec un autre artiste. Apparemment, oui. En fait,
ça s'entend un peu.
Pas. C'est vrai, quand on me demande pourquoi tu fais de la musique, c'est oui, j'adore être sur scène, j'adore partager, j'adore chanter. Mais finalement, quand on réfléchit, je me suis rendu compte que c'était peut-être que ça venait d'un endroit de guérison aussi. Alors, je valide pas à 100%, mais en tout cas, c'est une voie intéressante à suivre.
Parce que justement, la chanson, ce qui reste, ce genre de chanson, on a l'impression que ce genre de chanson viennent d'expériences vécues, de choses vécues qui déclenchent l'envie d'écrire ce genre de musique. C'était le cas ou pas?
Oui, toujours, oui, sur ce morceau, sur tous les autres d'ailleurs. C'est toujours le cas, oui.
Qu'est-ce que tu retiens de ta collaboration avec Dope Saint-Jude?
Ah bah c'était excellent, c'est vraiment, j'ai eu une chance. Déjà, c'est une très très belle artiste, elle est extrêmement inspirante, elle m'a énormément aidée. D'ailleurs, on repart sur scène avec elle en juillet, à Londres justement.
À Londres,
sur une date, et elle m'a énormément inspirée. C'est quelqu'un d'extrêmement positif, de très bienveillant justement, extrêmement bienveillante. Et elle aime transmettre. Donc elle est généreuse.
La transmission, c'est quelque chose qui te parle, toi, justement. On parlait tout à l'heure de cette thérapie que peut être la musique. Rogi Atou, toi qui écris, est-ce que c'est quelque chose aussi qui vous parle, vous, dans l'écriture? C'est une thérapie d'écrire?
Oui, bien sûr. En fait, moi, je trouve que toutes les formes d'art, en fait, permettent d'exprimer des émotions. Et donc, c'est le cas de l'écriture, c'est le cas de la musique, c'est aussi le cas de la peinture. Et j'ai l'impression que plus les émotions sont bien exprimées, mieux l'œuvre est reçue et par le public, en fait. Je trouve que c'est intrinsèquement lié, en fait, l'émotion et l'expression travers un art
artistique. Il y a Easy Collé qui essaie de casser les codes, briser les codes et faire une sorte de continuité dans l'éducation et l'accompagnement des enfants. La musique a forcément sa place.
Ah oui, totalement. Totalement, les rythmes. Je vais teaser un petit peu, mais donc on travaille avec un percussionniste ou un groupe même depuis pas mal d'années. Et j'avais envie vraiment d'instaurer vraiment beaucoup plus la musique. Pas juste sur des ateliers de temps en temps, mais vraiment aller en profondeur. Et donc on a des cours en ligne, donc la difficulté c'est comment on fait. Et donc j'ai posé la question à ce percussionniste, mais comment est-ce qu'on peut faire? Parce que bon, ils peuvent avoir tous leurs petits instruments, chacun de leur côté, mais est-ce que ça va te donner? Et en fait, il m'a dit, mais en fait, tu vas beaucoup trop loin. Le corps peut servir d'instrument, en fait.
Donc, faire des sonorités avec le corps et tout, et voilà, je trouvais ça extraordinaire.
La musique, tout ça, c'est bien. Ah oui, c'est bien dit. Fatih, tu avais une question pour Ténin.
Oui, parce que Ténin, tout à l'heure, tu as dit « la musique m'a permis de me découvrir ». Moi, j'aimerais savoir ce que tu as découvert. J'aimerais tous savoir, je pense, que tu as découvert.
Une belle femme qui a une belle voix.
Merci. Mais tellement de choses.
Sur toi, personnellement.
C'est sur moi, mon rapport avec moi-même, mon rapport à l'autre, mon rapport avec mon vécu, mon rapport avec ma famille. Le fait d'écrire, forcément, ça permet de se connaître, de mieux dépeindre son environnement aussi. Après, ça m'a appris, bien sûr, sur ma voix, des fois, sur ma personnalité, c'est-à-dire qui manquait peut-être de confiance en elle, justement, ou d'estime d'elle-même, et donc qui était parfois s'auto-limiter. Et donc, le fait de développer la voix, ça permet d'expérimenter le fait qu'il y a, enfin, la limite, forcément, c'est que nous-mêmes qui nous la fixons, en fait.
Ténin, est-ce que tu as des engagements ou des causes qui te tiennent à cœur en dehors de la musique ?
Oui, c'est justement, c'était très intéressant pour moi d'écouter tous les intervenants, parce que c'est des sujets, c'est des questions qui me parlent beaucoup, parce que c'est venu un peu plus tard. Ça m'intéresse extrêmement, ça me fascine de découvrir un autre côté de l'histoire, ou en tout cas de mon parcours, de mes racines. Et je suis beaucoup dans ces questions-là, en tout cas plutôt en écoute et en volonté de connaître plus.
Morphée, tu parles de quoi dans cette chanson ?
Morphée,
quoi ? La nuit, le sommeil.
Oui, c'est des rêves, mais plutôt là, c'est des cauchemars pour le coup.
Bon, ah oui, d'accord.
C'est personnel aussi, mais ça illustre plutôt les combats silencieux et personnels que chacun de nous peut avoir. Et donc, c'est pour ça, c'est l'image du cauchemar de Morphée, c'est pour indiquer le fait que parfois nos combats personnels peuvent s'inviter dans nos nuits, donc c'est difficile de faire face à certaines situations. Et le morceau, en fait, donc produit par Boucle d'Or, c'est sa rythmique un peu guerrière, que j'estime être une rythmique un peu guerrière. Finalement, ça me permet de, quand je le réécoute, de rester en paix avec les situations négatives vécues, pour me motiver à aller de l'avant et être en paix avec tout ce qui nous constitue.
On va écouter cette chanson Morphée, on revient tout à l'heure pour les commentaires.
Mon Afro Paris, c'est tous les vendredis de 19h à 20h30 sur Mon Paris FM.
Je vais pas fermer les yeux, j'ai peur de les voir. Des visions étranges, j'ai du mal à y croire. Je les entends qui rentrent, je les sens qui s'approchent. Mon corps se bloque, tout change de forme. J'suis libre dans le vide, au ralenti en infini. Je tombe, aspiré dans le vide. La même histoire que la nuit d'avant. J'ai peur de moi.
Vous suivez Mon Afro Paris sur Mon Paris FM.
Et j'ai voyagé avec cette chanson. Hein. C'est très très profond. Ça parle. Voilà, t'as dit que ça parle de cauchemar et tout, mais en même temps, ça te fait voyager avec le rythme qui est derrière.
J'aime beaucoup l'instru.
Ah oui,
c'est... franchement, ton beatmaker.
Ah oui, Boucle d'Or, il est vraiment, il sait très bien s'adapter. Bon,
faut qu'il vienne à l'émission.
Allez, voici l'agenda de Cynthia.
Retrouvez les rendez-vous de la communauté afro dans l'agenda de Cynthia. L'agenda de Cynthia, c'est tout de suite.
Le marché Ubuntu vous attend le 3 et 4 mai de 10h à 19h au garage des Lillois. Oui, c'est un rendez-vous à Lille. On n'y pense pas souvent, mais il y a un rendez-vous à Lille. Pour un pop-up africain et caribéen, l'entrée est gratuite et vous y trouverez des stands de mode, de beauté, art de vivre et jeunesse. Afrozone Market organise le Tropical Market le 17 et 18 mai à partir de 10h au 7 rue Bailly dans le 3e arrondissement de Paris. Et nous avons notre pépite, Amé Slam.
Ah oui, Amé Slam.
Amé Slam.
Amé.
Ben, j'ai vu...
Son prénom, c'est Amé, mais elle se fait appeler Amé, voilà.
D'accord, ben, parce que j'ai vu un gars qui disait...
Ah oui.
Ou elle disait qu'elle s'appelle Amé Slam. J'écoute, hein.
Dans sa chanson, ouais. Amé, celle qui fait Amé avec les mots.
Voilà. Du coup, je vois. Elle sera en concert le 10, elle nous dira comment on doit l'appeler. Elle sera en concert le 10 mai au Wafou à 20h à Abidjan.
Et toi, tu seras en reportage là-bas. Tu nous feras un retour.
Reportage.
Tu seras sur place.
Je vais kiffer, oui. Ce 3 mai aura lieu le week-end de l'écrivain à Bercy, au 17 rue de l'Aubrac, dans le 12e arrondissement. C'est un événement littéraire à ne pas manquer. Et c'est dès 8h30. Et on n'oublie pas que ces jours-ci, c'est la Foire de Paris.
Oui, et qui se produit là-bas? Wiki et...
Wiki et Heidi seront en concert le 5 mai.
Le lundi.
Ouais, le 5 mai. Et vous retrouverez également plusieurs, plusieurs artistes qu'on a reçus à l'émission. On a
tout
eu des auteurs de des éditions Negmaron. Donc, la maison d'édition est là depuis 3 jours.
Allez faire un tour du côté de la Foire de Paris, vous allez découvrir tout, pas mal d'invités qu'on a eu, des auteurs et des artistes, etc. Et tout. Merci pour cet agenda, merci pour ces rendez-vous. N'oubliez pas aussi le Festival des Arts et Cultures d'ici et d'ailleurs, qui aura lieu à Châteaubriand du 20 au 22 juin prochain. Du coup, voilà, je serai là-bas. Sans vous les amis, je suis désolé, mais bon, je vous fais un retour par rapport à ça. Et on est toujours avec nos invités, Rogi Atou, la Foire de Paris, t'y es ou pas?
Non, je n'y suis pas.
Tu n'y suis pas. Tu n'y es pas. Oula, j'ai dit tu n'y suis pas. Tu n'y es pas. C'est quoi ton actualité, Rocky et tout?
Alors, on a un événement, donc un club de lecture le 17 mai au restaurant Diaspora qui est animé par Anne de sa Petit Book Club. Voilà. Et il y a pas mal d'événements qui vont venir prochainement, notamment des séances de dédicaces. Et pour ça, je vous invite à suivre la page Instagram de la maison d'édition. C'est Édition Mandemori.
Voilà, vous aurez toutes les informations concernant Rogi Atou, son livre L'Exode des
Capoquiers.
Et toi du coup, Evelyne, responsable de Easy Collé, c'est quoi l'actualité en ce moment à Easy Collé?
Alors l'actualité, c'est qu'on a organisé à la seconde édition de notre festival donc, il y a quelques jours. Donc le festival Easy Collé Fest, c'est un festival donc, qui célèbre les cultures afro-caribéenne et les familles. C'était un événement super. Et là, on embraye sur notre prochaine rentrée. Donc, les inscriptions ouvrent dans quelques jours.
Voilà. Pour vous inscrire, on fait comment?
Donc, on va sur notre site internet ou notre page Instagram. Donc, il y a le lien EasyCollé, EasyKolle. Et vous retrouverez toutes les informations.
C'est clair. Téna, tu tournes beaucoup dans l'Europe, dans la France et tout. Quel est le retour que tu as souvent quand tu es sur scène avec le public?
Oui, ces derniers temps, c'était grâce aux tournées avec les artistes pour lesquels j'étais en tournée. Et pour mon projet à moi, ça dépend. En général, le public est curieux de ce que je fais. Je pense qu'ils sont intéressés par la voix. Il y a une curiosité sur le live.
Et c'est quoi ton actualité?
Justement, je vais sortir Morphée, le morceau que vous avez écouté. Vous êtes les premiers à l'avoir écouté.
Oui.
Et donc, il va sortir le 9 mai. Sur toutes les plateformes, Morphée.
Super. Merci d'être venu à cette émission. Merci beaucoup. merci pour tout ce que tu nous as apporté. On a parlé de ta carrière, de ton parcours, de ton univers musical. C'était très, très passionnant. Merci beaucoup. Merci à toi également, Evelyne, d'être venue. Ce fut un plaisir de te recevoir dans cette émission. On a parlé de toi pendant longtemps. Aujourd'hui, en tard, on a eu toutes les informations en clair dans cette émission et pour les auditeurs, pour le bien-être de tout le monde. Et puis, Rogi Atou, merci également.
Merci de m'avoir reçu.
C'est très enrichissant, les sujets que tu as développés et ceux dont on a parlé. Ça fait plaisir de t'avoir reçu également. Et puis, les amis, je vous dis merci. Comme tous les vendredis, on se retrouve. Elle veut dire quoi, Fatih? Je t'écoute. Vas-y.
Enjoy. Non, je rigole.
On va se séparer justement avec une chanson de Ténin. C'est le titre Too Late to Cry.
C'est ça. Allez,
on écoute ça. On vous souhaite un très bon week-end et à la semaine prochaine. Salut.
About to go, don't see nothing you can say no more. No place in my heart, I don't feel safe no more. No, I don't feel sorry, no, I don't feel guilty when it's too late to cry. No, I don't feel sorry, no, I don't feel guilty when it's too late to cry.
No reason to stay, no, no reason to cry.
This time.